bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais vous saluer en ce matin, en ce dimanche matin, fraternellement, cordialement, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au milieu de nous, selon sa promesse. Et pour ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Nous voulons lire les versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Pardon, je m'excuse. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, le péché et la mort. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, le surgissement du péché et ses conséquences. La dernière fois, nous avons médité sur la question du péché qui nous condamne. Et je résume brièvement. Ce ne sont pas d'abord les nombreux péchés que nous avons commis qui sont la raison de notre condamnation. Notre attitude charnelle et pécheresse, héritée d'Adam, à cause de laquelle nous nous sommes détournés de Dieu. En effet, au lieu de chercher Dieu, nous nous sommes cherchés nous-mêmes, voulant être autonomes par rapport à Dieu. Comme des hommes sans intelligence, injustes, impies, nous avons suivi le chemin de révolte à l'exemple de nos premiers parents. Par voie de conséquence, Dieu doit nous condamner, selon le décret de sa sainte justice qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle est donc le résultat de notre rébellion envers Dieu. Cette rébellion, nous l'avons librement et volontairement choisie en ce que nous avons, en toute connaissance de cause, toute responsabilité, accepter de vivre à notre guise, loin de Dieu et de sa parole. Quel que soit notre sentiment à cet égard, notre connaissance de Dieu et de nous-mêmes et de notre péché, notre conscience plus ou moins éclairée à propos de cette réalité, je veux parler du péché, il serait vain de contester la sentence divine. En effet, les affirmations de l'Écriture sont sans équivoque. Nul n'est juste, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nous sommes tous égarés, tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes donc sans excuses, car nous avons tous péché, sans exception, et ainsi nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, notre condamnation est juste, nous la méritons pleinement. Avant de développer comment Dieu en Jésus-Christ nous impute sa justice, pour nous délivrer de notre condamnation, j'aimerais, pour une meilleure compréhension du salut que nous allons développer dans la suite de cette série, pour une meilleure compréhension du salut, de la sanctification en particulier, j'aimerais m'arrêter encore quelque peu sur la question du péché que jusqu'ici nous n'avons qu'effleuré. La question est légitime. D'où vient le péché ? Comment est-il venu ? Qu'est-il en fin de compte pour qu'il produise un tel résultat, une pareille condamnation, un châtiment si terrible, loin de la face de Dieu, dans les ténèbres du dehors et dans les tourments affreux où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « L'apparition du mal dans l'univers ». Le mal n'est pas du domaine créé par Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mal. Il ne peut créer que ce qui est bon, conformément à sa personne divine. Par conséquent, le surgissement du mal dans l'univers créé par Dieu est par définition inexplicable et insaisissable. C'est un mystère entier. Il est impénétrable pour l'esprit humain et Dieu ne nous l'a pas révélé. Bien entendu, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Et s'il a permis la venue du mal, c'est encore un mystère insondable. Car les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées pour ses enfants. Cependant, Dieu est et demeure le Maître absolu, au-dessus de tout et de tous, y compris Satan. Et il l'a prouvé à la croix. Deuxième point, l'irruption du mal dans la sphère céleste. Il est impossible de dire à quel moment le mal a fait irruption dans le ciel. Mais il est vrai qu'il s'est manifesté en la personne d'un ange très haut placé. Cet ange, créé par Dieu, bon et parfait, s'est laissé séduire par le mal. Il s'est révolté contre Dieu, son Créateur, dans le but de le supplanter, voire de le supprimer. Alors Dieu l'a précipité du ciel dans la nuit du dehors, loin de sa présence, avec les autres anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Cet ange est devenu le Satan, l'ennemi de Dieu, son adversaire acharné, invétéré. La Bible l'appelle le diable, le destructeur, celui qui est le menteur et le meurtrier dans tout son être, de fond en comble. Les autres anges sont appelés démons. Ils sont à la solde du prince des ténèbres qui est devenu leur chef. Et ce despote, mauvais et méchant, par-dessus tout, voudra dans sa fureur dévastatrice et dans sa folie meurtrière anéantir le plan de salut de Dieu, puisqu'il ne peut pas anéantir Dieu lui-même. Ainsi donc, puisqu'il veut se faire adorer à la place de Dieu, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Il ne reculera devant rien, il cherchera même à faire mourir le Christ, car pour lui, la fin justifie les moyens. Troisième point, l'introduction du mal dans le monde. Expulsé de sa demeure céleste, Satan n'est pas resté inactif. Dans sa ruse perfide, il s'est personnifié dans un serpent pour tenter nos premiers parents et les détourner de Dieu, afin qu'ils suivent, eux aussi, le chemin de la révolte. Son stratagème a réussi. Et Adam et Ève sont tombés dans le péché, et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Voici le déroulement de cette tragédie. Ève écoute le diable, qui attire son attention sur les arbres, dont ils peuvent manger les fruits. Il suscite le doute dans son cœur en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Elle répond correctement et mentionne l'ordre de Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et des conséquences qui s'en suivent si ils en mangent. Le serpent reprend et dit à Ève, « Vous ne mourrez pas, au contraire. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Rien n'indique qu'Adam soit intervenu pour protéger sa femme dont il est responsable. La Bible ne le mentionne pas, mais elle le reconnaîtra coupable d'avoir introduit le péché et la mort dans l'humanité. Cette fois, le malin, pour mieux asseoir son pouvoir, mêle Dieu plus concrètement à sa séduction, pour bien montrer à Ève que c'est Dieu lui-même qui leur refuse ce fruit, car il ne veut pas qu'il soit comme lui. Il dira à Ève en substance, « Dieu ne veut pas que vous connaissiez le bien et le mal, autrement dit que vous puissiez choisir d'une manière autonome ce qui est bien ou mal pour vous. En un mot, il ne vous aime pas vraiment, puisqu'il veut garder toutes ses prérogatives pour lui seul. » Le doute s'installe dans le cœur d'Ève. Elle regarde le fruit et voit que l'arbre est bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Déjà, sa pensée est détournée de Dieu et déroutée vers le mal. Elle voit et comprend les privilèges que donne ce fruit. La tentation du malin s'incruste dans son cœur. La convoitise prend forme et finalement, le mal sera conçu en elle. Il sera engendré par la puissance malveillante et mortelle de Satan qui s'imagine alors triompher de Dieu. Car Ève prend du fruit défendu, en mange et en donne aussi à son mari qui était auprès d'elle. Le poison mortel inoculé dans leur être intérieur produit son effet. Adam et Ève perdent leur innocence. Leur esprit se meurt. Leur relation avec Dieu se brise. Et leur conscience les accuse d'avoir mal agi. Ils réalisent clairement qu'une étrange sensation les envahit tous les deux. Leur âme est profondément troublée, leurs pensées s'égarent et leur volonté s'effondre et s'écroule. Leur regard change et s'assombrit, car la lumière divine disparaît. Ils découvrent leur nudité et la crainte s'empare d'eux. Ils ont peur de Dieu et se cachent pour fuir sa présence, rendez-vous compte, car ils se savent coupables. Ils sont confus et abattus. Ils ont succombé sous les coups de l'adversaire et sont devenus ses esclaves. Ils sont désormais assujettis au mal et spirituellement morts. Depuis ce jour mauvais et maudit, tout est bouleversé. Plus rien ne sera comme avant. En effet, le monde est devenu sombre et froid hors du jardin d'Éden. Et ce n'est pas mieux aujourd'hui. C'est ainsi que le mal a été introduit dans l'humanité par Adam et Ève. Mais pourquoi y avait-il deux arbres spécifiques dans le jardin d'Éden? Un arbre aurait pu suffire, non? Les deux arbres dans le jardin d'Éden, pour bien montrer et démontrer son amour, amour qui ne s'impose pas mais se propose, et pour garantir à l'homme la libre responsabilité de ses choix selon sa condition créée à l'image de Dieu, son créateur, Dieu a planté deux arbres spécifiques dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Au sujet de l'arbre de la mort, il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Littéralement, de mort, vous mourrez. Remarquons qu'Adam et Ève savaient de la part de Dieu ce qui est bien ou mal, puisque Dieu leur avait dit formellement, manger de l'arbre de la vie, c'est la vie, manger de l'arbre de la mort, c'est la mort. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Obéir à la parole de Dieu, c'est la vie. Transgresser son commandement, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la vie ne se trouve qu'en Dieu et non pas en nous. Et cette vie ne nous est communiquée qu'au travers de sa parole, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est esprit et vie. Par conséquent, le bien, c'est la vie, le mal, c'est l'amour. Et cela pour l'éternité. Ainsi donc, et afin que nos premiers parents puissent faire le bon choix, Dieu les a placés devant leur responsabilité de créature libre, comme nous tous également plus tard. De créature libre créée à sa ressemblance, en leur donnant toutes les instructions utiles et nécessaires. Pensez-vous que Dieu condamnerait des irresponsables et des innocents? Mais qu'est-ce que le fruit défendu? Le fruit de la connaissance du bien et du mal consiste dans le fait pour la créature de définir et de décider à la place de Dieu ce qui est bien ou mal, par principe, en tout et partout. C'est une insurrection, un renversement total de la hiérarchie. C'est l'homme qui, incité par Satan et le mal satanique, veut prendre le pouvoir absolu. C'est le vase qui dit au potier, « Mais pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Ça va pas, non ? En un mot, le fruit de l'amour est émancipation de l'homme envers Dieu, pour devenir autonome. Il est un affront jeté à la face de Dieu le Seigneur, une révolte délibérée, une affirmation d'indépendance, une déclaration de guerre, dans le but de devenir Dieu à la place de Dieu. Un point, un trait. C'est ici le mal dans son essence intrinsèque. C'est la corruption de la pensée, de la volonté et des émotions humaines par le mal. C'est l'aveuglement, l'égarement de la conscience du divin en l'homme. C'est en réalité la dégénérescence de la création de Dieu, la descente de l'homme aux enfers, vers la mort éternelle, vers une existence sans Dieu, sans paix, sans pardon et sans espoir. Et pourquoi ? C'est tout simple. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Pas deux. J'aimerais faire ici quelques remarques complémentaires par rapport aux fruits défendus. Il est dit qu'il était bon à manger. Bon à manger satisfait les appétits de la chair et du péché, convient parfaitement à la vie selon la chair, à ses penchants, ses désirs, son égoïsme et son orgueil. C'est ici la dimension maligne de la nature adamique de l'homme, contraire à son origine. C'est la convoitise de la chair. Ce n'est pas forcément et uniquement le péché, mais c'est d'une manière générale l'attitude anti-Dieu, c'est-à-dire sans référence à Dieu, sans relation avec Dieu. C'est l'insoumission délibérée à la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie, et cela en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Cette tendance naturellement adamique sera attirée, attisée par les convoitises qui existent dans ce monde corrompu par le mal et se manifestera par toutes sortes de péchés que l'Écriture dénonce abondamment. C'est en définitive l'homme qui se fait Dieu, qui se complaît en lui-même, qui s'élève sur le trône divin, qui se couronne de gloire et d'honneur, qui devient arrogant, orgueilleux de sa sagesse, de sa richesse et de son pouvoir. Il finira par tomber et se briser la nuque comme le diable qui l'a enchaîné et entraîné dans cette abominable et détestable révolte. Ensuite, il est dit que l'arbre, le fruit de l'arbre défendu, était agréable à la vue. C'est l'œil qui doit être assouvi de multiples manières, par ce qu'il estimera beau, par ce qu'il définira comme esthétique et artistique, selon ses appétits charnels. Bref, c'est la vision étriquée d'un monde devenu étrange par le péché. C'est une vision ambitieuse, dénaturée et démesurée. C'est le besoin de divertissement, de splendeur, de grandeur, d'immensité, d'évasion, non seulement dans ce qui est humainement légitime, mais également dans ce qui est néfaste pour la pensée et destructeur pour l'homme en général. C'est la convoitise des yeux. C'est l'élévation et l'adoration du moi, égoïste et orgueilleux. C'est le regard inversé qui, au lieu de contempler ce qui vient de Dieu pour adorer et servir le Créateur Tout-Puissant, admire et adore la créature pour tout ce qu'elle est et pour tout ce qu'elle fait, dans le but de se servir d'elle et d'être servi par elle. Ce regard embrouillé et obscurci, au lieu de se fixer sur la lumière divine, se dirigera vers la nuit ténébreuse du péché charnel, vers les passions et les obsessions de toutes sortes, vers l'impureté, la débauche, la luxure, la cupidité, l'idolâtrie, les envies, les jalousies, le mauvais désir, la violence, la haine et la terreur et le meurtre. Et cela sans fin, car l'œil est insatiable. Et bien entendu, l'œil aveuglé par le Dieu de ce siècle s'égarera sur le chemin tortueux et périlleux de l'obscurité du mal pour aboutir dans l'abîme de la mort. Troisièmement, l'Écriture dit que le fruit défendu est précieux pour ouvrir l'intelligence. Assouvit l'esprit de l'homme, flatte son intelligence, qui peut penser, raisonner, concevoir, créer, dire, écrire, faire, tout ce qu'il veut, à sa façon bien sûr, et pas vraiment en rapport avec Dieu ou selon ses commandements. Et ici, son imagination débordante n'a pratiquement pas de limite, parfois dans le bien, souvent, trop souvent hélas, dans le mal. Car il appellera le mal bien et le bien mal, dans le but de satisfaire ses appétits charnels et coupables. C'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire se prendre pour Dieu
et régner sur le monde à la place de Dieu. C'est l'arrogance humaine qui se croit intelligente à la mesure divine, mais qui ne se rend pas compte que sa sagesse n'est que folie aux yeux de Dieu. C'est l'homme qui se vante de grandes choses, des grandes choses qu'il a faites, des exploits qu'il a accomplis, des créations qu'il a conçues et réalisées. Il se glorifie de la hauteur de ses pensées, de la profondeur de sa sagesse et de la grandeur de sa puissance. Moi, l'homme, on n'a point comme nous. Il s'imagine être le maître de l'univers par son pouvoir et ses richesses, par son emprise sur le temps et l'espace, par la sophistication de sa technologie et par ses prouesses scientifiques dans tous les domaines du bien comme du mal. Mais il ne sait pas, il ne veut pas se souvenir que tout ce qu'il aura dit et fait sera anéanti en un seul instant, à cause de son péché auquel il a assujetti non seulement l'humanité, mais toute la création. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Sauf s'il se repent, finira sa course effrénée à la poursuite des biens d'ici-bas, des plaisirs d'ici-bas, du bonheur d'ici-bas, des richesses et du pouvoir d'ici-bas, dans l'abîme, en bas, dans l'abîme, sans fond ni rive du mal, devant lequel il est tombé et auquel il se sera assujetti. Ce tableau est sombre. Vous devez un peu patienter jusqu'à ce que Dieu vienne l'illuminer. J'ai un dernier point, quatrième point, précision sur la nature du mal et la nature de Dieu. Vous supportez encore 2-3 minutes? Merci. Il y a quelques copies et vous retrouverez le message sur le site de l'Église. Une remarque préliminaire. Dans la Bible, le mot péché a été étendu pour décrire le mal d'une manière complète et universelle. En fait, le mot péché signifie, à proprement parler, manquer le but. Franchir la limite fixée par Dieu, transgresser sa parole ou sa loi. En d'autres termes, se comporter d'une manière qui n'est pas selon Dieu dans les pensées, les paroles et les actes. Ainsi donc, le péché étant si fondamentalement anti-Dieu, si farouchement opposé à Dieu, si méchamment mortel, contrairement à la vie divine, que Dieu, dans sa sainte majesté, ne peut ni le voir, ni le tolérer, mais il le hait. La Bible dit même d'une parfaite haine. Et le rejette, il le juge, et le rejette éternellement, loin de sa face. Et puisque nous avons été créés à son image, nous étions nous aussi, avant la chute, purs et innocents de tout mal. Nous avons été créés bons, avec une nature sans tache, avec une conscience morale, sachant discerner entre le bien et le mal. Mais maintenant, considérons la nature du mal, ce mal qui a complètement abîmé tout ce que Dieu avait si bien créé. Je vais assez rapidement, c'est super connu, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. Le mal est mauvais et méchant d'une manière absolue, au plus haut degré possible, de malignité et de folie meurtrière. Il ne peut en aucun cas être pire, plus excessivement abominable et détestable aux yeux de Dieu. Il est donc odieux, affreux et ténébreux, dans une mesure immense et inconcevable pour l'être humain, de telle sorte que nous ne sommes pas de taille à l'affronter, tellement sa ruse, sa perfidie et sa fureur destructrice nous dépassent infiniment. Le mal est aussi mauvais et méchant d'une manière totale, jusque dans toutes les parcelles de son être impur et infâme. Il n'y a aucune fibre de son être satanique et diabolique qui n'est pas atteinte par le mal. toute sa constitution est dénaturée et dépravée par le mal, comme je l'ai déjà dit, de fond en comble. Il serait vain d'imaginer qu'il y ait, ne serait-ce qu'une infime partie de bonté en lui. Il n'y a ni vérité, ni beauté, ni charité, ni pitié, ni quoi que ce soit qui vienne de Dieu, mais tout en lui n'est que laideur, violence, terreur, mensonge et meurtre. Il est noir tout outre. Ou ténèbres, si vous voulez. Le mal est encore mauvais et méchant d'une manière radicale, c'est-à-dire active et efficace pour s'accroître et se développer dans sa nature maléfique à tout l'univers et à toute l'humanité, selon les individus qui se laissent assujettir par lui. Il n'agit pas toujours dans l'extrême possibilité de ses pouvoirs maléfiques et néfastes, mais il prouvera par ses œuvres diaboliques la malveillance dont il est capable et l'ampleur destructrice qu'il peut déployer si Dieu ne l'arrête pas ou ne le limite pas. En effet, si Dieu n'avait pas régulièrement restreint ses actions dévastatrices, nous ne serions probablement plus là depuis longtemps. Car Dieu a veillé sur l'humanité, et dans ses compassions infinies, il l'a maintenu pour le salut, par ses interventions providentielles. Le péché est une grave offense envers Dieu, qui est une personne juste et sainte, absolument étrangère au mal, car Dieu est, à cause de sa nature divine, incapable de dire ou de faire quoi que ce soit de mal, ni de participer à aucun péché, ni même de tenter l'homme. D'ailleurs, l'abîme infranchissable qui existe entre Dieu et Satan, entre le ciel et l'enfer, entre les élus et les perdus, prouve que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Pour terminer, considérons encore quelques éléments de la nature de Dieu, notre Créateur, qui a fait les cieux et la terre et l'homme pour qu'ils vivent à la gloire de Dieu, afin qu'il y ait aussi l'autre côté, le pendant, c'est-à-dire le pendant du mal, c'est-à-dire le bien absolu. La nature de Dieu dans toute sa divinité est résumée également. Dieu, contrairement au diable, est absolument étranger au mal, pur, innocent de tout mal. Il n'a point de part avec le mal. Il n'est pas complice du mal à aucun moment et d'aucune manière. Car à cause de sa personne ineffable, de sa sainteté et de sa justice, comme de son amour, il est impossible qu'il soit partie prenante avec le mal qu'il hait et rejette intégralement. Si tel était le cas, aurait-il payé un tel prix pour sauver le monde du péché et du mal s'il en était complice? Jamais de la vie. Dieu donc est absolument au plus haut degré de perfection divine et infinie dans sa volonté. Dieu est donc bon, absolument, au plus haut degré de perfection divine et infinie, dans sa volonté déterminée et impérieuse de faire le bien. Il ne peut en aucun cas se développer, s'épanouir, se perfectionner. Il est depuis toujours et pour toujours le Dieu tout autre, l'incomparable, l'insondable, l'infini et seul Dieu vivant et vrai. Dieu est aussi bon et juste totalement, jusque dans le tréfonds de son être éternel et dans tous les aspects de sa personne. Aucune fibre de son être n'est touchée par le mal. Il est lumière et il n'y a aucune ombre en lui, aucune ombre de variation en lui. En effet, dans sa bonté inhérente, il ne peut mal agir, il ne peut que bénir, c'est-à-dire faire ce qui est bien. Dieu est encore bon, miséricordieux, plein d'amour, radicalement, activement et véritablement, opérant continuellement dans le sens de sa bonté pure et de sa compassion divine. Dieu ne change pas. Rien de ce qu'il dit ou fait ne peut être souillé ou compromis par le mal, à aucun moment et d'aucune manière. Et cela malgré les apparences contraires à cause du mal. Car Dieu ne peut procéder autrement,
c'est-à-dire faire quoi que ce soit de mal, sans se renier nous-mêmes.
Il faudrait aussi parler de tous les autres attributs de sa personne éternelle, comme la sainteté, la lumière, la justice, et tout ce qui concerne les nombreuses caractéristiques de la nature divine, mais cela n'entre pas dans ce message, dans le cadre de ce message. Et si Dieu a permis le mal, c'est un mystère inconcevable pour nous. Mais cela n'enlève rien, absolument rien, au fait qu'il soit le tout autre, au-dessus de tout et de tous, l'incomparable, le seul Dieu vivant et vrai, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Il est le Dieu invisible, habitant une lumière inaccessible. Il est indestructible, le Tout-Puissant, le Tout-Sage, et partout présent et pour toujours. En effet, il est présent dans tous les lieux de sa domination. Il est proche et agissant en Christ et par son esprit, d'une manière visible, tangible, par ses œuvres. Il maintient l'univers en état de marche. Il subvient, aux besoins de sa création. Il intervient en faveur des hommes. Et dans quel sens? Dans le sens de son plan de salut envers eux, selon le dessein éternel qu'il avait formé en lui-même de sauver les élus. À la suite, si Dieu veut et si nous vivons, une autre fois. Nous parlerons encore des conséquences du péché. Ainsi, on pourra mieux comprendre, mieux réaliser, je voudrais dire, la grandeur infinie de la justice de Dieu qui nous sauve, de la profondeur de son amour. Que Dieu soit loué et béni. Amen.